moi je viens de partir ça.
Fait que Galates au chapitre 2. Good. On va être doublement enregistré. Donc les paroles que je vais dire peuvent être retenues contre moi. Chapitre 2, verset, on a déjà lu le chapitre complet, mais j'aimerais qu'on relise ensemble les versets 11 à 21. Donc, grosso modo, la deuxième moitié du chapitre 2. En Galate. Vous savez, Céphas, c'est un des noms qui est donné à Pierre. Un gars avec trois noms, Simon, Pierre, Céphas. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Seigneur, on te remercie pour ce texte des Écritures que tu as inspiré et que tu nous donnes ce matin pour notre instruction, oui, pour nous donner de l'espérance. Parce que ta parole est vivante et tu es vivant et tu veux en ce moment faire une œuvre de vie en Jésus-Christ dans tes enfants. Tu veux manifester cette vie, tu veux te glorifier avec le fruit que tu portes dans tes enfants. Donc Seigneur, ce qu'on entend, que ça puisse tomber dans le sol fertile de chacun de nos cœurs. Qu'on puisse répondre à ta parole d'une façon favorable. Et on te prie aussi, Seigneur, que s'il y en a ici qui ne sont pas encore sauvés, régénérés, nés d'en haut par l'Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui soit le jour merveilleux de leur salut. Seigneur, on plaide, on invoque ta grâce, ton secours sur nous ce matin. Seigneur, c'est de toi qu'on a besoin, c'est toi qu'on veut. Tu es celui qu'on désire et qu'on demande maintenant, Seigneur. Viens à nous d'une façon bien spéciale. Bénis ton saint nom au milieu de nous. Glorifie-toi, Seigneur. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Le passage qu'on a lu, je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais on voit que Paul n'était pas le genre de gars à avoir la langue dans sa poche. On voit ici que Paul se prend à une grosse pointure, si on peut dire, malgré que, tu sais, on est tous à des simples créatures devant Dieu, mais je veux dire, on parle à l'époque dans l'église de Jérusalem. Pierre, c'était quand même pas n'importe qui. Il dit lui-même dans le passage qu'on a lu, qu'on a lu au tout début, qu'il parlait à l'apôtre des circoncis, à Pierre. Et donc, il dénonce ici une attitude chez Pierre et chez ceux qui ont embarqué dans cette hypocrisie, une attitude qui est le fil conducteur d'un problème redondant dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Acte 15, c'était le même genre de problème qu'on voyait. Et ce problème était là et il a persisté, non seulement dans le Nouveau Testament, mais encore même aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle. C'est quoi ce problème? Les multiples problèmes qui sont reliés à un mauvais usage de la loi. Les multiples problèmes sont reliés à un mauvais usage de la loi. D'abord, un premier problème, une première facette, l'hypocrisie ou la duplicité, comme on a vu ici, de la sanctification par les œuvres. De baser nos relations sur la loi, sur la performance, sur le faire ou ne pas faire. C'est ça ici qui arrivait. Puis ici, la parole de Dieu nous dit que les gens sont rentrés dans l'hypocrisie. Il y avait les apparences, mais ils offensaient Christ parce qu'il offensait son évangile. Et donc, c'était... Puis là, je vous dis ça là, très brièvement, mais c'était une première facette du problème. Une autre façon où est-ce que ça peut se manifester, c'est pas dans ce texte-là, mais on voit ça dans le Nouveau Testament par un mouvement qui prenait naissance, le pré-gnosticisme, c'est-à-dire il y avait des gens, c'était beaucoup plus dans les milieux païens, mais c'est aussi dans les milieux juifs, où est-ce que, au lieu d'être sous la loi, puis la loi, c'était le contraire. Pas de loi, dis-moi pas quoi faire. Puis c'est dénoncé dans Jude, c'est dénoncé dans 2 Pierre, c'est dénoncé dans certains endroits de la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et ça, c'était l'idée d'un laxisme, d'une mondanité sans frein, qui était produit par un rejet de la loi. OK, voyez-vous, les deux problèmes, c'est un mauvais usage de la loi. Un qui veut tellement s'y attacher, qui ne s'attache pas à Christ, puis un qui le rejette tellement, qui rejette Christ en même temps, par le fait même. Puis entre les deux, il y a une espèce de confusion puis d'aveuglement d'une approche hybride, d'un mélange de loi et grâce ou d'un mélange de licence ou de laxisme et de grâce. Le problème de tout ça, c'est qu'il passe à côté de l'essentiel, il passe à côté de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Voilà pourquoi le verset 20 qu'on a lu est tellement important. Ce verset, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans ma chair, hein, cette chair qui est têtue, puis tout ça, puis qu'on a donc de la misère, puis qu'avec la loi, j'essaie de la rendre conforme, ou en garochant la loi par-dessus bord, j'essaie de régler le problème. Non, si je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. » Au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset est tellement important. Ce verset, c'est le résumé de la grande vérité du Nouveau Testament, de notre union avec Jésus-Christ. Jésus l'a illustré dans Jean 15. Paul en parle en détail dans Romains 6, 7 et 8. Et ici, c'est mis dans une petite coquille de noix, juste dans un verset, tout est là. Et cette union avec Jésus-Christ, Christ en moi, moi, en Jésus-Christ, c'est la grande vérité du Nouveau Testament. Et non seulement dans ce message, mais dans les suivants, nous allons traiter de ça. C'est une vérité d'une importance, j'ai employé le mot gigantesque. J'essaie de trouver quelque chose de gros. Est-ce que j'ai de plus gros que gigantesque?
Capital.
Capital, gargantuesque, en tout cas. C'est gros. Pourquoi? Parce que c'est le problème, et je souligne le. Si je l'ai souligné, là, le problème qui nous a détruits et qui continue de nous détruire et qui explique qu'on priait ce matin pour les jeunes, pourquoi il y a tant de jeunes qui sont partis, pourquoi il y a des gens qui ont été de passage. Évidemment, chacun est responsable pour soi-même. Je pense que ça l'explique beaucoup comment on a été repoussant. Le problème, c'est qu'on a utilisé, pour notre part ici, dans notre milieu, une approche basée sur la loi. La performance. On a mal utilisé la loi en ce qu'on l'utilisait pour essayer de grandir en Christ. C'est pas le but de la loi. D'autres ici qui viennent de milieux différents ont eu un enseignement de par le leadership que vous avez eu. Vous avez eu une approche qui serait du côté laxiste, ou plus le laisser à soi-même, au penchant de notre nature pour vivre la vie chrétienne. Le problème de ces deux approches, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Les deux sont mauvaises. Elles sont destructrices parce qu'elles sont dépourvues de la vie de Christ. En ce qu'elles enseignent à vivre selon une forme de piété, mais elles renient ce qui en fait la force. Elles ne dépendent pas de celui qui est la vie de la vie chrétienne. Christ est la vie de la vie chrétienne. Et là, je vais juste vous amener, pour illustrer, je mets la table, je prends le temps, dans ce message de vous expliquer les choses. J'ai lu un livre qui nous parlait des problèmes sociaux qu'il y avait à l'époque, ce qu'on appelle le Bloc de l'Est, le communisme, ceux qui connaissent un peu l'histoire. Là. Le bloc de l'Est, c'est pas mal de pays. Là. Le plus gros, c'était la Russie, mais il y avait toutes sortes de pays qu'on appelle satellites, qui étaient tous sous le joug du communisme. Et un homme de cette époque-là qui a vécu ces choses-là, Vladimir Grigorenko, soulignait comment, à son époque, dans le communisme, il y avait une culture du mensonge. Une culture du mensonge où on pensait même pas qu'il y avait une autre société possible, une autre culture possible que vivre dans le mensonge. Ou pour reprendre l'expression de 1984 de George Orwell, la double pensée. C'est-à-dire, l'esclavage, c'est la liberté. La guerre, c'est la paix. Tu sais, comme, c'est vivre du mensonge, ça. Puis c'était, ça faisait partie de la culture. Et ce fait empêchait quiconque de dire la vérité. Et encore moins de la proclamer haut et fort. Et pourquoi j'amène ça? Parce que dans une certaine mesure, avec la vérité qu'on parle, dont on parle ce matin, par rapport à Christ, notre union avec lui, je pense, et par rapport à son œuvre parfaite, dans laquelle le livre d'Hébreux nous dit qu'on peut se reposer de nos œuvres, cette vérité-là a été la grande délaissée de nos églises. Ça a été un peu comme à l'époque, on a vécu un mensonge, une double pensée, où est-ce qu'on a dit la vie chrétienne, c'est la liberté, mais on est arrivé à un asservissement. Encore pour faire le parallèle avec une situation historique, un autre ami de cette époque-là, Tamás Salayi, son dur à dire ces noms-là, c'est du monde. Lui, je pense que c'est un Tchèque, ou un Slovaque, ou un Tchécoslovaque, parce qu'à un moment donné, c'était mêlé. Mais bon, je prends ces paroles. Nous avons vécu tellement de problèmes, avant et maintenant, parce que nos pères ne nous ont jamais parlé, à nous, leurs fils, comme mon père l'a fait en 1963. Qu'est-ce qu'il a fait de son père en 1963? Il lui a dit la vérité par rapport à l'invasion des Russes dans son pays natal, c'est la Hongrie. C'est-à-dire, ce n'était pas la version officielle, la version gouvernementale, la version des médias. Si ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et donc, après ces explications, le père a dit à son fils de 7 ans à l'époque, il dit, dis jamais ça à l'école, ce que tu as entendu. Parce qu'il venait d'y dire des choses qui avaient un prix qui était rattaché avec, le prix de l'emprisonnement, de la torture et de toutes sortes de choses de même. Maintenant, pourquoi M. Tamás Salayi, quand il parle de ça, pourquoi les choses ont été pires, comme il le dit? Pourquoi le problème a grandi? Parce que la vérité n'a pas été transmise à la génération suivante. Pourquoi? La peur. La peur des pères. Manque de confiance, manque d'amour envers la génération qui suivait. Il y avait un trésor de vérité. Il est appelé à proclamer la vérité dans l'amour, si vous voulez, pour faire un parallèle avec le monde chrétien. Et ne l'ont pas fait. Le résultat, la multiplication de la destruction des maux et des problèmes. Et comprenons bien ceci ce matin, le fait de ne pas dire, de ne pas transmettre la vérité sur Jésus-Christ, sur son œuvre parfaite, sur la vraie liberté, la vraie vie, la vraie paix, tout ce qui est vrai, de ne pas transmettre ça à l'autre génération, mais de juste transmettre un bagage de choses à faire ou à ne pas faire, c'est destructeur. De la même manière, on est en train de semer les fruits de la destruction de ça. Qu'on soit du côté laxiste ou du côté légaliste, c'est pas grave. Les deux passent à côté de Jésus-Christ, celui qui est la liberté, celui qui est la vie, celui qui est toute la différence. Et ça, c'est un manque de foi. Un manque de foi en Dieu. Que si on proclame la vérité, c'est le matériel que Dieu utilise pour bâtir son œuvre. Et quand on fait ça dans l'amour, ça passe. Parce que la vérité choque parfois, mais la vérité dans l'amour, ça passe. Parlons un peu de la peur. La peur, c'est un fléau qu'on voit en ce moment, mais ce n'est pas nouveau. Comment est-ce qu'il explique ça, les problèmes qu'il y avait? Les parents avaient peur de dire à leurs enfants, « Ah, mais là, s'ils disent, puis OK. » La peur maintenant, le manque de crainte de Dieu, la peur de l'homme au lieu de la crainte de Dieu, dans nos relations, remplace la foi en Dieu.
pense que ce qui a détruit beaucoup nos relations, c'est que par peur des extrêmes. Si je suis trop lousse avec mes enfants, je ne mets pas de règles, ils vont s'en aller fou comme des balais. Ou l'autre pensée, c'est si je lui mets tellement de règles, ils vont se rebeller contre ça, puis ils voudront plus rien savoir. Fait que les deux, la pensée lactiste ou légaliste, est motivée par la peur. La peur qui peut arriver ci ou ça. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas la foi que si je prêche Christ, si c'est lui que je mets de l'avant, si c'est sa vie, c'est lui comme personne. Parce que la loi est bonne, mais la loi c'est un livre. La loi c'est juste des instructions, aussi parfaites soient-elles. Elles n'ont aucun pouvoir pour nous rendre capables de le faire. Christ est celui qui a la vie, qui a tout ce que ça prend pour accomplir ces choses dans la loi. Mais si j'ai peur, et je pense que je mets beaucoup le blâme au pied de nous, les prédicateurs.
Ah ben là, si tu prêches trop la grâce, les gens vont faire n'importe quoi. C'est-tu quoi? Si les gens sont saisis par la grâce de Dieu, ils vont pas faire n'importe quoi. Au contraire, ils vont faire la volonté de Dieu. Quand on est saisi par la grâce, on s'en va pas loin de Dieu, on s'en va proche de Dieu. Mais parce qu'on a eu peur, on a passé à côté. Puis les parents, puis c'est une faute qui revient beaucoup sur le leadership. C'est pour ça que je veux prendre le temps de jeter la lumière sur ce problème qui est dans les ténèbres. On a un aveuglement spirituel par rapport à ça. C'est pour ça que le titre de mon message est « Dieu révèle nos œuvres de ténèbres ». On a fait plein de bonnes choses qui paraissent bien, puis tout ça. Mais savez-vous quoi? Quand c'est fait par la chair, ça a beau bien paraître, c'est pareil des œuvres de ténèbres. C'est mort. Ça donne pas la vie, ça donne la mort. Fait que je vais en parler aujourd'hui, je vais en parler la semaine prochaine, puis dans le mois d'avril, maintenant je vais plus expliquer c'est quoi le problème. Il y a vraiment une suite directe entre ce qu'on voit aujourd'hui puis la semaine prochaine pour vraiment comprendre de quoi qu'on parle, c'est quoi qui est problématique. Puis dans le mois d'avril, parce que le thème d'avril, c'est Dieu se révèle dans sa parole, on va voir la révélation biblique de la solution, de comment Christ, notre union avec lui, c'est ça la solution. Donc, pour le message d'aujourd'hui, pour mettre la table, j'ai fini mon introduction, mais là je vous dis, voici, c'est quoi le message d'aujourd'hui, ok? C'est basé sur cette simple pensée-là. Puis je pense que dimanche matin passé ou dimanche après-midi passé, en tout cas, j'y ai référé. Le but sur lequel nous nous concentrons, c'est de ça qu'on va dépendre. Le but sur lequel je me concentre, c'est de ça que je vais finir par dépendre. Là, je vous le dis juste demain, puis on va découvrir dans le message de ce matin comment c'est une vérité spirituelle puissante. Donc, on va regarder trois buts ce matin. Deux mauvais, puis un bon, qui vont révéler notre dépendance. D'abord, on avait arrêté à la fin du chapitre 2. On va commencer le chapitre 3, les cinq premiers versets. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » La première chose que j'aimerais qu'on considère ce matin, le premier but, c'est lorsqu'on se concentre, lorsque notre but c'est la loi, ça nous amène à dépendre de la chair. Et je vous explique pourquoi. Le constat qui est ici dans Galates, c'est le même que dans Romains 7. Comment ça finit, Romains 7? Ça finit-tu bien? En fait, juste avant le dernier verset fait un pont vers le chapitre 8, mais verset 24, ça dit « Oh, misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Qu'est-ce que ce chapitre-là nous dit? « La loi, aussi bonne et parfaite est-elle, ne va jamais pouvoir me donner la victoire. » Elle fait juste me montrer comment je suis dans la défaite. Elle fait juste magnifier le fait que je ne suis pas capable d'avoir la victoire. C'est ça le but de la loi. Puis elle nous conduit à Christ qui est la victoire. OK? Mais L'idée, c'est ça. C'est que si je veux m'appuyer sur la loi, aussi bonne soit-elle, si c'est ma concentration, je vais dépendre de la chair. Puis en dépendant de la chair, je vais arriver à la défaite ou à ce cri du cœur de Paul dans Romains 7, misérable que je suis. Et donc, le but sur lequel on se concentre, c'est celui duquel je vais dépendre. Pourquoi? Parce que ça devient ma source de pouvoir. Et puisque la loi n'a aucun pouvoir, ben je suis laissé à moi-même. Il faut que j'essaie avec mes bonnes intentions, du mieux possible, de faire ou de ne pas faire. Je suis dans la prison du faire. Et l'idée, OK, si mon but, c'est la loi, ben il faut que j'obéisse à la loi. OK? Je me concentre sur ce que j'ai à faire, ce que j'ai à ne pas faire. Et le problème ici, c'est que j'ai pas la puissance de le faire. Mais maintenant, parlons un peu de motivation. Pourquoi d'abord ça dit, je vous cite trois versets du psaume 119. Dans psaume 119, 97, ça dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Verset 113 « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » 163 « Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » Pourquoi le psalmiste dit comme ça qu'il aime donc la loi? C'était-tu un légaliste? Non. Il aimait l'auteur de la loi. Sa motivation était vers celui, son amour était vers celui qui a donné la loi. Son objet d'attention était celui qui l'a donné. C'est pour ça qu'il aimait ce qu'il a donné. L'objet d'attention était le Dieu qui l'a donné. Si on lit le psaume 119, on s'en rend compte. C'est évident. Et donc, ce que David, dans le psaume 119, apprécie, c'est le précepte divin, pas la tradition humaine. Ce qui est l'objet de son attention, c'est pas comme pour la tendance légaliste de la nature humaine, la tradition plus que la parole, comme les Galates et les pharisiens avaient tombé dans le piège. Vous savez quoi? Quand on tombe là-dedans, on peut se glorifier dans notre chair. Parce que moi, je peux dire, ah, moi, je fais ça, toi, tu fais pas ça. Hey, nous, dans notre église, on fait pas ça. On n'est pas comme les gros méchants qui font pas ça. Ou nous, on fait pas ça, on n'est pas comme les gros méchants qui, eux, font ça. Non, on se glorifie dans la chair. Donc, c'est pas du bon fruit. Mais même plus, il y a même plus subtil que ça. Écoutez bien, si mon but, par exemple, OK? Là, on dit la loi, faire, pas faire. Mais même, écoutez, si mon but, c'est d'être comme Jésus-Christ, il n'y a rien de mieux que ça. Je veux dire, Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de là. Je veux être comme Jésus-Christ. N'est-ce pas que ça dit que ceux qui l'ont connu d'avance, il les a ici prédestinés à être semblables à l'image de... Si c'est ça mon but, au lieu de simplement lui-même, c'est pas d'être comme Jésus. Mon but, ça doit être d'avoir Jésus, de connaître Jésus, de la communion. Comprenez-vous? Il y a une différence. Mais si mon but, c'est juste d'être comme lui, je tombe à court. Pourquoi? Parce que là, j'essaie toutes sortes de recettes, puis de principes, puis à gauche, puis à droite, pour essayer d'être comme lui. Mais si j'ai pas lui, j'ai rien. Voyez-vous comment ça peut être subtil?
Le cœur.
Ouais, exactement, le cœur, il est pas. Fait que là, il y a une subtilité même, ou un autre exemple. Si mon but, c'est la liberté, c'est bon, la liberté. On va en parler dans le deuxième point, mais... Si c'est ça mon but et non celui qui libère, je passe à côté de la liberté. Le but, c'est pas quelque chose. On a fait du but quelque chose, alors que le but, c'est quelqu'un. C'est ça le problème fondamental. Le but de la vie chrétienne, c'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Par ailleurs, vous savez, je vous ai dit, c'est un problème qui était récurrent dans le Nouveau Testament. Dans Acte 15, c'est ressorti. Qu'est-ce que certains ont dit dans Acte 15, lors du concile de Jérusalem? Tout ça a commencé, ça dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Oh, gros problème! Eux, il y avait une approche hybride, une approche mélangée, OK? Un but partagé. OK, Jésus, mais c'est Jésus plus la circoncision. Jésus plus... OK? Fait que c'est des gens qui avaient professé Christ, mais ils disent, mais c'était pas circoncis selon la loi de Moïse, tu peux pas être sauvé. Donc c'était Jésus plus. C'est pas mieux, Jésus plus. C'est Jésus seul, n'est-ce pas? Et on comprend ça pour le salut. Puis ici, le problème, c'était ça, c'était avec le salut, les gens OK? Mais si c'est vrai pour la justification, que c'est Jésus seul et non pas Jésus plus, pensez-vous que c'est vrai pour la sanctification? La sanctification, c'est par Jésus seul. Parce que, écoutez ce que l'approche hybride va dire. L'approche hybride, ce qui est subtil, c'est qu'elle emploie le langage du Saint-Esprit. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois ressembler à ça, 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 selon ma boîte. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que tu rentres dans cette boîte-là, sinon, ça ne marche pas. Là, tu regardes un autre, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, il n'est pas dans la boîte. Ça, c'est l'approche hybride. Voyez-vous? C'est encore l'idée de définir selon les paramètres de la loi, du faire, du pas faire, et non pas simplement de Christ. Et j'aimerais avancer ce matin que notre milieu baptiste indépendant est infesté de ce mélange de loi et grâce. Cette approche hybride tue notre milieu parce qu'elle tue la grâce par le fait même. Parce qu'on est partagé, inconstant dans toutes nos voies, irrésolu. On veut deux choses en même temps, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est parce que des règles, des principes, des standards, c'est mauvais? Non. Mais écoutez bien. Est-ce qu'il y en a ici qui sont jardiniers? Mon ami, on n'aura pas des grosses carottes cet été. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait un jardin? Ah, une, deux. Ah, bon, OK. Ouais. Ben, nous autres, on a eu des expériences. Là, mettons que nos débuts ont été plutôt humiliants, mais en tout cas, on a fini par avoir une coupe d'affaires. Mais, vous savez, quand on a un jardin, on met une clôture, on met quelque chose, hein? Surtout, tu sais, bon, nous ici, on a des petits amis, là, tu sais, il y a des champs autour, fait qu'il y a des petites marmottes, OK, il y a toutes sortes de belles petites créatures qui aiment bien partager la création de Dieu avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une clôture. Mais le but, là, c'est pas la clôture. Le but, c'est le jardin. La clôture ne fait que protéger la vie du jardin. Mais c'est ça. Les standards, les décisions qu'on prend, les principes, c'est juste pour protéger le principal, notre relation avec Jésus-Christ, la vie qui est en Jésus-Christ. C'est là, ici, qu'il faut comprendre la distinction. OK? Et lorsqu'on a une approche légaliste ou hybride, on fait l'erreur de mettre tout l'accent sur la clôture. On fait de la clôture la chose principale. Puis on oublie la vie du jardin. C'est ça l'idée. C'est le jardin, c'est la vie. OK? On a un mauvais objectif, un mauvais focus. Ça, c'est le premier point. Deuxième, dans Galates, toujours, chapitre 5, on va lire deux versets. Donc, on vient de parler de la loi. Et se concentrer sur la loi, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à dépendre de la chair. Juste pendant que vous tournez là, savez-vous aussi, si je base mes relations sur la loi, comme Seigneur m'a montré ça dernièrement, j'ai tellement basé mes relations familiales, de couple familial à l'église sur la loi. Puis c'est pas avec nécessairement des mauvaises intentions, mais c'est un aveuglement spirituel et c'est mauvais. Pourquoi? Parce que là, il faut que tout le monde soit à la hauteur, puis s'ils ne sont pas, ça ne marche pas, puis... Savez-vous quoi? C'est une façon d'être pas mal misérable et d'avoir des relations misérables. Est-ce que c'est pour des bonnes choses? Absolument! Parce que je veux le mieux du monde. Puis la loi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand on définit nos relations là-dessus, puis que c'est notre focus, on détruit tout. Mais quand Christ est le focus, c'est quoi la différence? C'est que là, je vois que Christ est plus grand que ça. C'est lui mon espérance. Oui, il y a des problèmes. Oui, on a besoin que Dieu mette sa main, mais c'est notre espérance, notre focus, c'est celui, c'est une personne, c'est celui qui peut faire une différence. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé, mais quand vous voulez changer les autres, mon ami, ça ne marche pas, puis c'est décourageant, puis ça fait juste des tensions. Parce que ce n'est pas notre job. On n'est pas capable de changer personne. Verset 1, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et lisons aussi le verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. » Donc, le deuxième but mauvais qu'on peut avoir, c'est se concentrer sur la liberté ou pas de loi. Ça, c'est d'autres milieux. On pourrait appeler ça laxisme. C'est quoi? Ça nous amène tout autant à dépendre de la chair. Parce que là, encore aussi, il faut qu'on comprenne pourquoi tant de monde tombe dans ces pièges-là parce que c'est subtil. Une tromperie, là, c'est pas comme Satan qui arrive avec des grosses bottes de 7 lieues, là, qui cogne à ta porte et qui dit « C'est-tu quoi? Je veux vous tromper pour que vous passiez à côté de Jésus-Christ puis la vie abondante qui est en lui. » Oh non, c'est bien plus subtil que ça. Et donc, tout comme avec la loi qui est bonne, la liberté, c'est bon. Je veux dire, Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc, hein, la liberté, c'est quelque chose de bon. Mais aussi bonne puisse-t-elle être, elle ne peut pas devenir notre objectif, notre focus. Parce que si ça le devient, inévitablement, ça l'enlève les yeux sur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Donc, deux choses bonnes, mais qui nous amènent à enlever les regards de Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Un bon exemple de ça, les groupes AA ou NA. Là, c'est pas parce que je ris, là. Alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, des groupes semblables. Ils ont comme but, ils comptent les jours. Ah, ça fait tant de jours que je suis sobre. Ça fait tant d'années. Le but, c'est la liberté. Mais c'est un mauvais focus. C'est qu'ils regardent à ce qui, dans le fond, peut devenir très facilement leur tentation. Puis ils ont la concentration sur le problème qu'ils ont eu. Puis là, ils l'ont de façon inversée. Ben, j'ai pas ce problème-là, ça fait tant de temps. Ils ne regardent pas en bonne place. Ils regardent à « Ah, oh, je suis libéré, c'est merveilleux », mais ils ne regardent pas à celui qui libère. Ils regardent à quelque chose. Ils ne regardent pas à celui qui est la liberté. Voyez-vous comment c'est simple, dans le fond? Tout est une question sur quoi mes regards sont fixés. Est-ce la bonne loi de Dieu? Est-ce la liberté qu'il donne? Aucune de ces choses ne doit s'interposer entre moi et la vie de Jésus-Christ. Parce que quand ça arrive, ça bloque la vie. Ça l'empêche de couler. Ça l'empêche de s'émanciper. Parce que mon cœur, étant un cœur humain comme il est, il ne garde pas son centre d'attention à bonne place. C'est des distractions. C'est des façons de détourner les regards de sur Jésus. Aussi bon, c'est ça la trappe, c'est que c'est des choses bonnes. Mais il y a juste une chose qui est vraiment bonne, qui est excellente, c'est de regarder à Jésus. Parce que le but de la vraie liberté qui est en Jésus-Christ, c'est d'avoir une relation vivante et qui grandit avec lui. Et savez-vous quoi? Il est la liberté chrétienne. Si je l'ai lui, j'ai toute la liberté dont j'ai besoin, donc c'est lui qu'il faut que je cherche. Pas simplement, c'est pas assez de juste chercher la liberté, puis de juste chercher « Ah, j'ai plus toutes ces jougs de loi! » Parce que c'est pour ça qu'on a des gens qui passent d'un milieu légaliste, puis s'en vont dans un milieu laxiste. Ils ont passé à côté de Christ dans deux milieux. Christ, c'est lui qu'il faut chercher. Il est la liberté de la vie chrétienne. Il est la vie de la vie chrétienne. Et c'est ce dont nous allons parler dans ce troisième point, le troisième but. Et c'est le seul qui est bon. Se concentrer sur Jésus-Christ nous mène à la dépendance du Saint-Esprit. Et on l'a lu déjà, mais on va le relire, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avoir comme but Jésus-Christ lui-même nous donne accès à sa vie, qui nous libère des imitations de la piété. Les imitations ayant l'apparence de la piété et renier ce qui en fait la force. Vous savez, les chrétiens, on est bons pour imiter. Savez-vous à qui qu'on ressemble quand on imite? Satan, c'est le maître de la contrefaçon. Satan a ses fausses églises, ils ont son faux évangile. C'est tout de la contrefaçon de ce que Dieu fait. Et quand mon but est autre chose que Jésus-Christ, je tombe dans l'imitation. Tu vas dire, hey, Satan, voyons donc, moi j'aime Dieu. Puis, ouais, mais Satan est trompeur. Puis il va nous faire croire que toute la vie est belle, puis tout est beau. Mais on est en train de marcher dans ses voies, puis d'y ressembler, parce que on fait de la contrefaçon. On est dans l'imitation et non dans la réalité. Et ça, il n'y a pas de pierre achetée au légaliste ou au laxiste, les deux doivent recevoir une pierre. Ce n'est pas un plus que l'autre. Maintenant, lorsque mes regards sont sur Jésus, je dois dépendre de lui. Pourquoi?
Si, mettons, je suis dans une situation, par exemple, ici, dans une église, là, des fois, il y a des gens qui viennent voir le pasteur, puis, ah, là, j'ai une situation, je ne sais pas trop quoi faire. Savez-vous souvent ce que j'ai fait? Ben, hein, il y a plein de bonnes choses dans la parole de Dieu. Puis là, souvent, ce que j'ai fait avec plein de bonnes intentions, j'ai rajouté un fardeau de bonnes intentions sur le dos du monde. Avec plein de choses dans la parole de Dieu. Tous bonnes. Et ce que je suis en train de me rendre. Puis ça, c'est quoi? Puis là, s'ils ne le font pas, ben là, hey, tu fais dur, puis t'es bien dur de comprendre, puis, OK? Puis je fais ça avec moi. Mais lorsque mon point de concentration, c'est Jésus, et quand quelqu'un me voit, puis que je l'amène, OK, avec ce que tu vis, regarde à Jésus, voici ce que ça peut pouvoir dire. Parce que bon, on est bons, les prédicateurs. OK, il faut marcher par l'esprit, il faut regarder à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous que je vous le dise? D'abord, regardez à Jésus, là. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Amen. Puis Dieu s'est révélé dans sa parole est vivante. Et lorsque l'Esprit du Dieu vivant agit, ben, il se fait reconnaître par ses enfants. Dieu fait des choses, puis autrement dit, si j'ai les yeux ouverts, si j'ai les oreilles ouvertes, je vais voir que Dieu est en train de faire quelque chose. Okay? Parce que Dieu, c'est le chef, l'initiateur, c'est celui qui suscite la foi. L'alpha et l'oméga, c'est lui qui commence. Donc, regardant Jésus, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis, des fois, c'est pas tout le temps, « Oh, wow, c'est donc merveilleux! » Non, des fois, c'est un gros problème. Des fois, c'est un... Puis Dieu ressort les ténèbres de notre cœur. C'est Dieu qui fait ça. Moi, je vous dis, 2020, là, j'ai jamais vu Dieu autant travailler, mais j'ai jamais vu aussi autant les ténèbres de mon propre cœur. Ouf! Mais c'est l'œuvre de Dieu, ça! OK, là, la question... OK, donc là, je vois Dieu à l'œuvre. Il a commencé quelque chose. Regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, une fois que j'ai ce point de départ-là, j'embarque par la foi. OK? C'est que Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, ça suscite une réponse. Dieu ne veut pas qu'on soit juste des spectateurs. Il veut qu'on embarque dans son travail quand on est un enfant de Dieu. Puis d'ailleurs, pour le salut, c'est pareil. Dieu est celui qui, dans le cœur, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il prend les vérités de l'Évangile, il prend la croix, la résurrection, puis il montre à celui qui n'est pas sauvé. Ça, c'est la vérité. Tu dois y croire. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande une réponse, il a commencé quelque chose dans le cœur, puis il faut qu'on réponde. C'est pareil pour la vie chrétienne. Fait que si vous êtes ici, vous entendez l'Évangile, vous entendez la parole de Dieu, mais vous savez que vous n'êtes pas encore sauvé, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu révèle sur son Fils, sur le salut? Est-ce que j'y réponds par la foi? La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est une chose de croire, on peut savoir ça dans le temps, mais il faut le recevoir pour nous-mêmes. Est-ce que tu as reçu pour toi-même le paiement parfait pour tes péchés? Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, regardant Jésus, c'est, tu vois travailler ton bac dedans, et là, c'est dire, Dieu, c'est toi qu'il faut qu'il finisse. C'est ça, ça veut dire dépendre de Dieu. Regardant Jésus, là, je suis obligé de dépendre de lui. Là, je ne peux plus essayer de me forcer moi-même parce que là, je vais embarquer dans quelque chose que je n'ai pas commencé et je ne sais pas comment ça va finir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dépends de Dieu. Comprenez-vous? Donc, c'est quoi marcher par l'esprit? Ça veut dire que lorsque Dieu m'a montré quelque chose de même, qui est en train de travailler, puis qu'il me montre à embarquer par la foi, marcher par l'esprit, c'est mon pote, la foi, c'est le Saint-Esprit qui dit, vas-y, c'est là, là. Puis là, lorsque j'embarque, des fois, c'est par une réponse, dans une situation, au lieu de répondre avec les passions de ma chair, de me confier en Dieu, dans le calme de la confiance sera votre force, ou peu importe les situations, là, je fais un pas. Puis la marche, c'est quoi? Mais c'est un pas, puis un autre. La marche par l'esprit, c'est marcher comme ça, de façon répétitive, dans ce pattern, d'embarquer dans ce que Dieu est en train de faire. J'espère que ça va un peu clarifier ce que ça veut dire. Regarder à Jésus, puis marcher par l'esprit. Maintenant, je veux juste amener un point qui est important. Parce que je ne veux pas qu'on tombe dans les deux extrêmes d'être antinomien, c'est-à-dire pas de loi, j'en veux pas, puis d'être légaliste. On a besoin absolument de la loi pour s'appuyer dessus pour grandir. Non, on s'appuie sur Christ pour grandir. Je vous donne l'exemple du livre des Actes, encore dans Actes au chapitre 15. Je n'ai parlé tantôt avec le concile de Jérusalem. C'est quoi le résultat de ce concile-là? Il y a quatre règles qui sont sorties, okay, par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles et tout ça. Les quatre règles qui ont été données, c'était parce qu'il y avait des problèmes entre les Juifs, les judaïsants, et les païens. Okay? Et le but de l'Église avec ça,
C'était pas de renforcer des règles. Ah, là, on va vous donner des règles, puis ça va tout régler. Non, c'était de maintenir la relation de l'Église avec sa tête, Jésus-Christ. C'était ça qui était en danger. Il aurait pu passer à côté de l'essentiel, il aurait pu enlever les regards sur Jésus. Donc, ils ont mis 4 règles qui permettaient de garder l'objectif, de garder les yeux à la bonne place. OK? Un peu comme un restaurant. Tu sais, on voit plus ça l'été au Québec, mettons, on voit pas ça bien souvent, mais t-shirt obligatoire, souliers obligatoires. OK? Tu sais, mettons, les gens sur le bord de la plage arrivent en nu-pied puis torse nu au restaurant. Pas supposé de faire ça. Est-ce que c'est le but du restaurant? Est-ce que c'est pour ça qu'ils se lèvent le matin? Non, le but du restaurant, c'est de nourrir les gens, de leur servir des repas, n'est-ce pas? Mais ils mettent ça parce que ça l'encadre, puis ça permet que ça reste un restaurant décent. OK? De la même façon, le verdict du Concile de Jérusalem, dans Acte 15, c'était pas mettre de l'accent sur des règles, des standards pour que tout le monde s'y soumette. Mais c'était le but que l'Évangile de Jésus-Christ pour le salut et la sanctification, que l'Évangile reste centré sur Jésus seul. Pas Jésus plus. Pas Jésus moins. Le but des 4 règles, c'était de garder le bon focus. Et quand notre but est Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous dirige à prendre des décisions, des standards, des choses qu'on va faire ou ne pas faire. Mais la dépendance reste au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous le manque. Fait que le standard, les choses, c'est pas mauvais. La question, c'est quand je regarde à Dieu et que lui montre des choses, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas se regarder. Des fois, on n'est pas tous pareils. OK? Pour ça, Romains 14, il y en a qui a des choses qui font, d'autres qui ne font pas. L'idée, c'est qu'on s'accueille les uns les autres comme on a été accueillis par Jésus-Christ. Mes amis, c'est tellement important. La question, c'est pas ce que je fais ou ce que je fais pas, c'est quoi mon but dans vie? C'est ça la question. Et savez quoi? Je peux soit vivre dans le monastère spirituel du légalisme ou dans la fausse liberté du laxisme. Tôt ou tard, les circonstances de la vie, puis ce que Dieu envoie, va faire tomber les murs de mon monastère ou va resserrer les limites de ma liberté pour montrer que c'est de l'esclavage. Ça nous rattrape! Pourquoi? Parce que Dieu est trop bon pour laisser aller son peuple à quelque forme d'esclavage, à se contenter de quoi d'autre chose que Jésus-Christ. Dieu, dans sa bonté, ne veut pas qu'on se creuse des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais il nous en libère. Oh, mais quand on apprend à dépendre de Jésus-Christ, qui jamais ne nous délaisse, ne nous abandonne, mais qui nous garde et qui est toujours là, on peut être en paix, marcher en paix et expérimenter Christ, notre victoire. Je vous lis là-dessus 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Comment? Simplement gardant les yeux sur lui. Il y a une juste conception de la sainteté. Avoir une relation avec Dieu qui comprend que, le Saint-Esprit des fois me dirige à faire des choses et tout ça, et qui m'amène à pas chercher la sainteté pour la sainteté ou la liberté pour la liberté, mais à être à l'écoute de la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et quand on entend la voix de Dieu, le Saint-Esprit est assez grand, il est assez sage pour nous diriger dans exactement nos besoins. On n'a pas à s'en faire et à essayer de jouer au Saint-Esprit dans la vie des autres, dans la vie de mes enfants, que toutes mes relations deviennent basées sur le contrôle, sur le faire ou le pas faire. Dieu est assez grand pour diriger là-dessus, puis si j'entends sa voix, il va me le montrer. OK, je vous dis ça avec ça. La subtilité de ce qu'on parle. Si mon but, c'est d'atteindre la victoire, c'est-tu bon de vouloir atteindre la victoire? Si mon but est d'atteindre la victoire, savez-vous quoi? L'ironie, la victoire va m'échapper. Pourquoi? Parce que mon but, ça doit être Jésus, la victoire. Il est ma victoire. Le but, c'est pas une chose, c'est une personne. Si mon but, c'est de me diriger moi-même, de vouloir faire comme je veux, je passe à côté de Jésus-Christ qui est le bon berger qui, lui, dirige dans des verts pâturages. Je suis pas capable de faire ça. J'ai pas la sagesse que ça prend. J'ai besoin de lui. Si mon but, c'est quelque chose d'aussi élevé et de noble que la sainteté va m'échapper. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas le Saint d'Israël, celui qui est saint. Quand je trouve Jésus, je trouve toute la liberté, toute la victoire, toute la sainteté dont j'ai besoin. Ah, Seigneur, j'aimerais savoir plus de patience. La patience, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit? Ouais, c'est quelque chose de bon. Si je fais juste chercher la patience, je ne cherche pas assez. Je dois chercher celui qui est patient, celui qui a tout le fruit de l'esprit qui vient avec une relation avec lui. Donc, on comprend ce que je vous dis là, que lorsque je suis en relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, que je le connais, là, je vais avoir l'humilité, la sainteté, la victoire, la joie, la paix et tout le fruit de l'esprit. Parce que quand j'ai lui, j'ai tout ce qui vient avec. Mon but révèle ce que j'aime, ce à quoi je m'attache. Et je conclue avec juste quelques versets, mais vous savez, ça dit, on a vu ça dans la semaine passée ou l'autre d'avant, dans Éphésiens 5, versets 12 et 13, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Dieu manifeste nos œuvres par sa lumière. » Est-ce qu'on s'entend que cette année, c'est pas mal ce que Dieu a fait? Moi, en tout cas, je parle pour moi, mais Dieu a révélé beaucoup de choses qui étaient dans mon cœur, dans mes relations. Puis en ce moment, Dieu, dans sa bonté, me révèle quelque chose que je veux vous partager, puis que je vous ai partagé ce matin, puis que je vais continuer de vous partager. Mes amis, aussi nobles puissent être nos buts, si c'est quelque chose, on passe à côté du quelqu'un. C'est ça que je veux qu'on retienne ce matin. Le but de la vie, c'est pas quelque chose. Le but de la vie, c'est quelqu'un. Le but de la vie, c'est Christ. C'est toute la plénitude de Dieu est en lui. Dieu s'est révélé pleinement en lui. Et lorsque je l'ai lui, j'ai tout le reste. Et des fois, on pose ça à des jeunes, mais je veux la poser à tout le monde. C'est quoi ton but dans la vie? Des fois, on demande ça à des jeunes. Plus on demande ça encore à des gens. Moi, je me rappelle, je me faisais demander, c'est quoi ton but dans la vie? Hein, quand tu as 15 ans, c'est pas évident de faire demander ça. T'es pas trop sûr toi-même. Hein? Moi, je savais pas trop à 15 ans, c'était quoi mon but dans la vie. En plus, ben là, j'avais pas la lumière de l'Évangile dans ma vie, mais. Mais on parle de quelque chose de vital ce matin. C'est quoi mon but dans la vie? Savez-vous qu'est-ce qu'on devrait penser avec l'intelligence renouvelée? C'est qui mon but dans la vie? C'est qui mon but dans la vie? Le but ici, si vous n'êtes pas encore sauvé, votre but doit être Jésus-Christ qui est la réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour le salut de ton âme, c'est lui qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Puis si tu essaies d'être sauvé en étant une bonne personne, tu regardes à quelque chose. Tu regardes à la loi, tu regardes, mais regarde à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le but, ça doit être pour nous chrétiens, Jésus, la vie abondante. Hey, je veux la vie abondante. Cherche Jésus, il est la vie abondante. Notre but, ça doit être Jésus qui est notre tout en tous. Ça veut dire qu'on peut manquer toutes sortes d'affaires, mais si on a Jésus, on a tout ce dont on a besoin. Donc, mon défi ce matin, mon appel, c'est simplement qu'on vienne ensemble dans une symphonie de la prière. Répondre à Dieu en disant, Dieu, ah, j'ai besoin de bien des affaires dans la vie. Mais ce matin, je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de toute chose. Et c'est toi. Ouvre-moi les yeux sur la grandeur de qui tu es, sur la grandeur du besoin que j'ai de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait que tu nous amènes à regarder là où toute l'espérance est, là où la vie, l'amour, l'abondance se trouvent en Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Ah, Seigneur, je sais, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, ce message a exalté celui qui sauve, le seul qui sauve. Ah, s'il y a quelqu'un ici qui croit, qu'il y a beaucoup de choses qu'il sait au sujet de Jésus, mais qui n'a pas reçu la vie éternelle en lui, qui n'a pas encore pensé par la repentance pour recevoir par la foi Jésus comme son sauveur, on te prie qu'aujourd'hui, on puisse voir cette personne, ces personnes sauvées. C'est notre désir, Seigneur. Et pour nous ici qui sommes tes enfants, ah Seigneur, c'est toi qu'on désire. Ah, puisses-tu, comme le psalmiste, créer dans nos cœurs un désir ardent quand on lit ta parole, quand on l'entend, quand on prie. Au-delà de simples lettres écrites dans un livre, que ce soit toi qu'on voit au-delà. C'est toi qui te révèles à nous. Tu te montres à nous. Tu es la personne la plus importante, la plus précieuse, la plus merveilleuse de tout l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, de nous révéler ces choses, de nous révéler les ténèbres de notre cœur afin de nous révéler ton Fils Jésus-Christ, qui est la lumière dans ce monde, qui est la lumière dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta patience et ta grâce. On te prie pour une grande œuvre de grâce. Et Seigneur, tu es à l'œuvre, tu nous as montré des choses sur toi, on veut embarquer là-dedans. Montre-nous comment, montre-nous où, Seigneur. Où est-ce que tu es en train de travailler, puis tu veux qu'on embarque. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.